écoutez Radio J. Radio J. Radio J.
Si per li allea che tacci cra I schlossi per li allea alle lusche avrà ach mi si fa e schar li scoa an io de a domino stan mi fam beta hanot haroa I lo sa סיפר לי מזוהי ידיי כחולות איש לא סיפר ואולם כי ידעו הם זאת שמצליחה אפשר לשכוח אני יודע לא מן הסתם נלחם בתחנות הרוח היא לא שם סליחה אפשר לשכוח אני יודע לא מן הסתם נלחם בתחנות הרוח היא לא שם
Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens.
Al motel ha-mizrach magen David lefele Ve'al arvot bachut taloi kinor ha-melech Kochav ulevana utzlav al pnei ha-pelech Vagan hayam haruach tas Al motel ha-mizrach avak afor ufiach גן הים, סירת מפרס ומה שהוא עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה
minutes. Merci d'être avec nous sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec un petit peu de retard ce matin, mais nous sommes là bien sûr avec Eva Soto. Bonjour Eva. Et bonjour Greg Labadie.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et Roman Toiti est également avec nous en studio, notre stagiaire. Bonjour Roman.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et oui, ravi de vous retrouver ce matin. Un journal qui va commencer dans quelques instants. Nous serons également à partir de 6h20 avec Igal Palmore, directeur des relations internationales à l'agence juive. On va aussi parler de Génération de la Shoah, 3e édition. Le forum qui se tient au mémorial avec Lior Lalieu, on en parlera. Et justement, elle nous dira aussi son sentiment après ce qui s'est passé hier à Paris, la découverte de ces tags sur le mur des justes, un mur profané notamment. On en parlera sur Radio J avant 7h. Actualité avec vous Eva, 122e jour de guerre contre le Hamas et on l'apprenait, la mort d'un soldat annoncé ce matin.
Le sergent Ira Yair Gispan qui est tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza et toujours sur le front sud. 14 soldats de Tsahal ont été blessés hier, dont 4 grièvement dans des combats dans la bande de Gaza. La conséquence d'une fusillade avec des terroristes dans le nord du territoire pour 8 d'entre eux. Par ailleurs, un soldat de la brigade Givati a été grièvement blessé et 5 autres plus légèrement dans l'explosion d'un engin à Rafah dans le sud. Dans le centre de la bande de Gaza, c'est un centre de commandement du Hamas qui a été frappé à Nousserat dans un raid aérien d'Israël. Il se trouvait dans une école de l'UNRWA et cette nuit, Tsahal a intercepté aussi 2 drones venus de l'Est. Ils ont pu être abattus avant de franchir la frontière.
Et selon Tsahal, il y a des otages par ailleurs dans la région de Rafah.
C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'Est de Rafah. Selon le contre-amiral Daniel Agari, les opérations à Rafah, Jabalia et Zetoun ont permis d'éliminer plus de 100 terroristes. Lors de cette conférence de presse donnée depuis le terminal de Kerem Shalom, il a aussi évoqué les 10 tunnels terroristes localisés depuis le début de la semaine dernière.
L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza.
C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression que sur des normes internationalement reconnues, ce qui n'est pas le cas de tous. Hier, Pascal Martin, une députée LFI, a interpellé en usant de ce terme de génocide le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Stéphane Séjourné lui a répondu.
Ce qui est à l'origine de cette tragédie, c'est l'attaque du 7 octobre. Et vous ne l'avez toujours pas mentionné, pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les 43 Français qui sont décédés lors de ces attaques et qui constituent aujourd'hui une tragédie. Alors les Palestiniens n'ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Et je le redis sur Rafah de manière très claire, Israël doit cesser cette opération.
Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, son homologue israélien, affirme que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est entre les mains de l'Égypte pour protester contre la prise de contrôle par Israël du terminal de Rafah afin d'éviter que le Hamas ne le fasse. Le Caire a bloqué tout passage d'aide aux Palestiniens. Israël Katz a évoqué la question au téléphone hier avec ses homologues allemands, britanniques et italiens.
L'actualité en France, le mur des justes du mémorial de la Shoah vandalisé à Paris. Des mains rouges y ont été taguées, une plainte a été déposée.
Des graffitis découverts hier matin, ainsi qu'ailleurs dans le quartier du Marais. Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens à Sciences Po et mis en cause pour leur connotation. Le renvoi à celle ensanglantée de Palestiniens qui avaient lynché des soldats israéliens en l'an 2000. La réaction du président du CRIF, Yonatan Arfi.
C'est un double outrage. Outrage d'abord à la mémoire de la Shoah, parce que venir souiller, salir le mur des justes, c'est évidemment porter atteinte à la mémoire des 76 000 juifs de France disparus et des 4 000 Françaises et Français qui ont œuvré pour sauver les juifs qui ont pu l'être durant la Shoah en France. Puis la deuxième chose, c'est que c'est un outrage parce que ce symbole des mains rouges n'est pas un symbole innocent, nous le savons tous. C'est renvoyer à un appel violent au meurtre, un appel au meurtre de juifs, puisque ce symbole, c'est celui des mains ensanglantées des terroristes qui avaient lynché deux Israéliens en octobre 2000 à Ramallah, on s'en souvient.
Yonatan Arfi, le président du CRIF, condamnation aussi d'Emmanuel Macron, dégrader le mur des justes parmi les nations, barrage des lumières contre le nazisme. C'est porter atteinte à la mémoire de ces héros comme à celle des victimes de la Shoah, a écrit le président de la République sur X.
Et puis enfin, pour terminer, ça se passe au Royaume-Uni. Deux hommes accusés d'avoir planifié des attentats antisémites à l'arme automatique.
Ils ont comparu hier devant un tribunal. Walid Sadawi et Amar Hussein sont accusés de préparation d'actes terroristes. Un troisième homme est lui accusé de ne pas avoir divulgué des informations sur ces actes de terrorisme en préparation. Tous étaient inspirés par le groupe de l'État islamique et comptaient également s'en prendre à l'armée et aux forces de l'ordre.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva qu'on retrouve évidemment tout au long de cette édition sur Radio J. Point sur la météo. Ce matin, ce mercredi, le temps est assez instable sur les trois quarts de l'Hexagone avec des averses parfois orageuses. Entre Paris et les Hauts-de-France, le temps est plus calme. Il fait frais quand même partout. 20 degrés à Paris, 21 à Marseille, 19 à Lyon. Et puis la météo en Israël, de belles températures, hein, toujours avec 24 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv, plus de 33 à Eilat.
Radio J, le 6-9. Hélène Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. On en a beaucoup parlé de l'Eurovision. Et justement, c'est une chanson qui avait représenté Israël à l'Eurovision l'an dernier, avant Eden Golan. C'est Noah Kirel, Unicorn, et une version réadaptée après le 7 octobre.
Hey, you don't like the way I'm talking, hey. So you stand or keep on calling me names. No, I'm not your enemy. If you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories, time to go away and believe in fairy tales. Oh, I'm gonna stun you like a unicorn. I want you on my own. I got the power of a unicorn. Don't you
Kirel, Unicorn sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Hélène Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Et nous sommes à présent en ligne avec Igal Palmore, directeur des relations internationales à l'Agence juive. Bonjour Igal. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Merci d'être avec nous. On va retrouver Egal dans quelques instants. Effectivement, on va faire le point de l'actualité. 122e jour de guerre contre le Hamas et évidemment toutes les répercussions en Europe, mais aussi aux États-Unis. On l'a vu avec les récentes manifestations, notamment devant les universités. Et surtout, on va parler de ce qui s'est passé hier à Paris, hein, la profanation de ce mur des Justes au mémorial de la Shoah. Et Egal Palmore est donc avec nous ce matin. Bonjour Egal. Ah non. Ah, bonjour, merci d'être avec nous, on vous entend effectivement. Alors, on parle effectivement de l'antisémitisme qui frappe tous les continents, hein, les États-Unis notamment, la France. Et justement, d'abord, on voulait avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé hier à Paris. Vous l'avez vu, le mur des Justes au mémorial de la Shoah qui a été vandalisé, des mains rouges y ont été tagués, on sait hein, ce que représentent ces mains rouges, symbole d'un attentat dans les années 2000 à Ramallah, le lynchage de deux soldats israéliens. Qu'est-ce que ça vous inspire, Egal ?
D'abord l'horreur, tout de suite l'horreur absolue, et puis je dois dire que le doute n'est plus permis, hein, parce que on n'arrête pas de nous bassiner les oreilles en nous disant mais non, c'est de l'antisionisme, c'est simplement une résistance, une opposition à la politique du gouvernement israélien. C'est politique, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de l'antisémitisme, mais il faut bien que l'on m'explique comment salir le mur des Justes à Paris peut être lié à une opposition à une politique quelle qu'elle soit, à des démarches militaires, à une vision politique d'Israël ou de la Palestine. Quel rapport ? Alors là, il est clair et net qu'il s'agit de l'antisémitisme à 100%. Et nous avons affaire ici à quelque chose de bien plus profond, bien plus, répugnant, bien plus dangereux qu'une simple opinion politique qui peut être répréhensible, qui peut être rejetée, mais qui n'est qu'une opinion politique. Non, ce n'est pas une opinion politique, ce n'est pas une opinion du tout. C'est un sentiment profond, viscéral, de rejet raciste et d'antisémitisme. Voilà, parce que le racisme contre les Juifs, c'est de l'antisémitisme.
Alors, vous parlez d'antisémitisme, justement, un anti-sionisme qui est un antisémitisme. Et aux États-Unis également, on a vu toutes ces manifestations des étudiants juifs apparemment empêchés d'entrer dans les universités. Et on l'apprenait hier soir à Harvard, la direction a accepté, finalement, après des semaines de blocage, de discuter des revendications émanant des étudiants anti-israéliens. Est-ce que c'est une forme de reddition pour vous ?
Mais tout à fait, tout à fait. C'est que l'université n'avait jamais envisagé de le faire. Au début des manifestations, elle avait totalement rejeté ces demandes des manifestants. Et là, pour obtenir le calme, elle se plie en deux, ou en quatre, ou en huit, on verra bien. Mais elle se plie, la direction de l'université, et elle accepte ce qu'elle qualifiait il y a peu d'inacceptable, sous la pression. Il n'y a pas eu de nouveaux arguments qui auraient pu convaincre la direction de l'université. On ne lui a pas avancé de nouvelles preuves ou un nouveau discours. Non, simplement la pression a continué, une pression accompagnée de son assortiment de violence sur le terrain. Et l'université s'est pliée. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre qualificatif. C'est la reddition totale, c'est la capitulation.
Eva Soto, vous avez une question pour Egal Palmore.
Bonjour Egal Palmore.
Bonjour Eva.
Effectivement, dans ces universités, même d'ailleurs à Sciences Po, il y a des appels au boycott ou à rompre des relations avec les universités israéliennes. Beaucoup de chercheurs pointent le doigt sur le fait que, y compris ce qui est connu sur les Arabes israéliens ou même sur les Palestiniens, eh bien, ça s'est pensé dans des universités israéliennes en collaboration avec le secteur arabe israélien d'Israël, donc, et parfois même avec des Palestiniens. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, je dirais deux choses. D'abord, si j'ai bien compris, ce qu'exigent les manifestants, ce n'est pas seulement le boycott des universités israéliennes ou d'Israël en général, mais le désinvestissement déplacement dans toute société ou compagnie qui aurait un trait à une activité qui pourrait être liée à Israël. Donc ce n'est même pas un boycott d'Israéliens, ça pourrait être un boycott de Français, d'Américains, de Canadiens, de tout ce que vous voulez, si ceci aurait une activité liée à Israël. C'est vraiment inouï, et ces boycotteurs sont invités à remettre tout de suite aux autorités de surveillance du boycott, leur téléphone portable, leur ordinateur, toute leur technologie, puisque vous savez très bien que ce sont dans les centres de recherche en Israël qu'un grand nombre de trouvailles technologiques de toutes les grandes compagnies technologiques internationales sont développées. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour les universités concrètement, eh bien, les universités israéliennes, bien sûr, sont regorgent d'étudiants, de professeurs, d'enseignants, de chercheurs d'origine arabe, soit de nationalité israélienne, soit un peu moins, mais quand même, de Palestiniens. Donc, boycotter les universités israéliennes, c'est boycotter un espace où Israéliens, Juifs et Arabes, Israéliens et Palestiniens collaborent, travaillent ensemble et manifestent une coexistence fraternelle. C'est évidemment un bon message de paix et d'espérance, ce qui se passe dans les universités israéliennes, sans exception d'ailleurs. Et si c'est cela qu'on boycotte, eh bien là encore, le doute n'est pas permis. Il ne s'agit pas de boycotter une politique ou l'occupation ou une vision, une théorie politique, non. Il s'agit de salir et de calomnier de façon aveugle, je dirais, tout ce qui se passe en Israël, y compris l'exemple même de ce que les manifestants prétendent faussement, bien sûr, défendre, c'est-à-dire la paix, la paix, la coopération et la coexistence judéo-arabe.
Alors, on parle de ce qui se passe aux États-Unis, Yigal Palmore, et justement, c'est important aussi d'évoquer ces liens entre Israël et les États-Unis. Joe Biden, l'administration Biden, qui soutient bien sûr Israël dans sa guerre en cours, qui n'est pas d'accord avec toutes les opérations bien sûr lancées par Tsahal. Mais une information importante, c'est que l'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza. D'ailleurs, l'ONU a cessé de relayer les chiffres incohérents, dit-on, du bureau de presse du gouvernement du Hamas. C'est important justement que qu'on en parle, que les États-Unis défendent Israël sur ce point, ce bilan des morts dans la bande de Gaza.
Oui, c'est extrêmement important parce que les États-Unis, c'est quand même le pays qui a le meilleur accès sur le terrain, le meilleur accès pour savoir ce qui se passe vraiment, les meilleures informations en provenance de tous les côtés, du côté israélien bien sûr, mais aussi du côté égyptien, du côté qatari, du côté palestinien, pas du côté du Hamas bien sûr, mais du côté palestinien. C'est le seul pays qui a des liens aussi profonds avec tous les acteurs, qui est aussi impliqué, qui surveille de près ce qui se passe, et donc c'est le seul pays qui a vraiment, vraiment les informations, et puis c'est le seul pays qui a le courage à l'ONU de dire haut et fort ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que pour les autres pays, ça ne se passe pas toujours comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, pour ce qui est de ces données des victimes à Gaza, oui, l'ONU admet à petite voix que les données, les chiffres communiqués jusqu'à présent étaient des chiffres fantaisistes, totalement discrédités par l'ONU même aujourd'hui, et donc tous les comptes sont à refaire en les revoyant à la baisse de manière drastique. Mais qui va l'admettre maintenant? Donc si tous ces chiffres doivent être revus dramatiquement à la baisse, c'est que peut-être les conclusions génocidaire était fausse dès le départ. C'est que faire confiance aux communications du Hamas était un mauvais choix, peut-être. Qui va l'admettre aujourd'hui? On attend toujours, ils ne sont pas légion à dire aujourd'hui que cette tendance de l'ONU à reprendre automatiquement tout ce que communique le Hamas était peut-être la fausse route pour ne pas dire les choses de manière un peu plus dure.
Merci beaucoup, Yigal Palmore, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci pour toutes ces explications, ces précisions ce matin. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt sur Radio J. Je vous dis à bientôt. Ne bougez pas, les amis, dans quelques instants, le journal avec Eva Soto.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous ce mercredi 15 mai 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 122e jour de guerre contre le Hamas et toujours 132 otages dans la bande de Gaza. On en parle sur Radio J. Et on fait le point de l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et oui, 122e jour de guerre contre le Hamas et on l'apprenait, la mort d'un soldat annoncée ce matin.
Le sergent Ira Yair Gispan qui est tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza et toujours sur le front sud. 14 soldats de Tsahal ont aussi été blessés hier, dont 4 grièvement dans des combats. La conséquence, une fusillade avec des terroristes dans le nord du territoire pour 8 d'entre eux. Par ailleurs, un soldat de la brigade Givati a été grièvement blessé et 5 autres plus légèrement dans l'explosion d'un engin à Rafah dans le sud, dans le centre de la bande de Gaza. C'est un centre de commandement du Hamas qui a été frappé à Nusayrat dans un raid aérien. Il se trouvait dans une école de l'UNRWA et cette nuit, Tsahal a intercepté 2 drones venus de l'Est. Ils ont pu être abattus avant de franchir la frontière.
Selon Tsahal, il y a par ailleurs des otages dans la région de Rafah.
C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'est de Rafah. Selon le contre-amiral Daniel Agari, les opérations à Rafah, Jabalia et Zetoun ont permis d'éliminer plus de 100 terroristes. Lors de cette conférence de presse donnée depuis Kerem Shalom, il a aussi évoqué les 10 tunnels terroristes localisés depuis le début de la semaine dernière.
L'administration Biden ne croit pas, on en parlait, qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza.
C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression que sur des normes internationalement reconnues, c'est-à-dire avec le critère d'intentionnalité, ce qui n'est pas le cas de tous. Par exemple, hier, Pascal Martin, une députée LFiste, a interpellé en usant du terme de génocide concernant ce que fait Israël, le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Stéphane Séjourné lui a répondu.
Ce qui est à l'origine de cette tragédie, c'est l'attaque du 7 octobre. Et vous ne l'avez toujours pas mentionné, pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les 43 Français qui sont décédés lors de ces attaques et qui constituent aujourd'hui une tragédie. Alors les Palestiniens n'ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Et je le redis sur Rafah de manière très claire, Israël doit cesser cette opération.
Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, son homologue israélien, affirme quant à lui que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est entre les mains de l'Égypte. Car oui, pour protester contre la prise de contrôle par Israël du terminal de Rafah afin d'éviter que le Hamas ne le fasse, le Caire bloque désormais tout passage d'aide aux Palestiniens. Israël Katz a évoqué la question au téléphone hier avec ses homologues allemands, britanniques et italiens.
En France, le mur des justes du mémorial de la Shoah vandalisé à Paris. Des mains rouges y ont été taguées, une plainte a été déposée.
Des graffitis découverts hier matin, ainsi qu'ailleurs dans le quartier du Marais. Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens à Sciences Po, est mise en cause pour leur connotation, le renvoi à celles ensanglantées de Palestiniens qui avaient lynché des soldats israéliens en 2000. La réaction du président du CRIF, Yonatan Arfi.
C'est un double outrage, d'abord à la mémoire de la Shoah, parce que venir souiller, salir le mur des justes, c'est évidemment porter atteinte à la mémoire des 76 000 juifs disparus et des 4 000 Françaises et Français qui ont œuvré pour sauver les juifs qui ont pu l'être durant la Shoah en France. puis la deuxième chose, c'est que c'est un outrage parce que ce symbole des mains rouges n'est pas un symbole innocent, nous le savons tous. C'est renvoyé à un appel violent au meurtre, un appel au meurtre de juifs, puisque ce symbole, c'est celui des mains ensanglantées des terroristes qui avaient lynché deux Israéliens en octobre 2000 à Ramallah, on s'en souvient.
Yonatan Arfi, le président du CRIF, condamnation aussi du président Emmanuel Macron, dégrader le mur des justes parmi les nations, barrage des lumières contre le nazisme, c'est porter atteinte à la mémoire de ces héros, comme à celle des victimes de la Shoah, a écrit le président sur X, ex-Twitter.
Et puis enfin, pour terminer, au Royaume-Uni, deux hommes accusés d'avoir planifié des attentats antisémites à l'arme automatique.
Ils ont comparu hier devant un tribunal britannique. Walid Sadawi et Amar Hussein sont accusés de préparation d'actes terroristes. Un troisième homme est accusé de ne pas avoir divulgué des informations sur ces planifications d'attentats. Tous étaient inspirés par le groupe de l'État islamique et comptaient aussi s'en prendre à l'armée et aux forces de l'ordre.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera dans 10 petites minutes à 6h45 sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Effectivement, beaucoup d'actualités encore ce matin et avant 7h, on va revenir sur ce qui s'est passé au mémorial de la Shoah hier, la profanation du mur des justes. On en parlera avec Lior Lalieu, notamment coordinatrice d'un colloque pour le mémorial de la Shoah, le forum Génération de la Shoah, 3e édition. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, mais tout de suite, c'est le Dvar Torah du jour avec le Rav Mevorer Zerbib. Rav, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Sur la notion du deuil du Homer, elle ne couvre pas toute la période du Homer. En effet, quand on parle du conte du Homer, cela va de la fête de Pessah, du deuxième jour de Pessah, jusqu'à la fête de Shavuot, 49 jours. Mais le deuil ne dure que 34 jours. 34 jours. Il y a en fait deux traditions qui existent sur la définition des jours de deuil pendant cette période, liées à la disparition des 12 000 pères d'élèves de Rabbi Akiva. Je parle de pères d'élèves, c'est comme ça que c'est mentionné. On parle souvent de 24 000. Mais en fait, comme ils étudiaient en binôme, et c'est très important parce que ils étudiaient en binôme, et on dit que le problème qu'ils avaient, c'est non nahagu kavod zelazé. Ils se faisaient pas suffisamment kavod, honneur, de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Ils ne faisaient pas de mal, ils n'avaient pas de comportement dédaigneux, mais ils manquaient de kavod l'un l'autre. Et ces 24 000 élèves, ou ces 12 000 pères d'élèves, sont morts pendant la période entre Pessah et Shavuot, mais pas tout le temps. Alors, une opinion dit qu'ils sont morts jusqu'à la moitié de la période, une autre opinion dit qu'ils mouraient les jours de semaine, mais pas les jours de Shabbat, pas les jours du mois de Nissan. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, un jour oui, un jour non, au niveau du deuil. Il y a donc deux grandes traditions, une tradition essentiellement séfarade, qui est de commencer le deuil à partir du premier jour du Homer, du deuxième jour de Pessah, jusqu'au 34e jour du Homer. Oui, 34. C'est comme ça marqué dans Rabbi Yosef Karo. La deuxième opinion, c'est celle qui est suivie par une certaine partie des Ashkenazim. Beaucoup d'Ashkenazim suivent la première opinion, mais le Rama ramène une autre opinion qui fait démarrer le deuil après le mois de Nissan et va le prolonger jusqu'à 3 jours avant la fête de Shavuot, pour avoir les 34-33 jours, avec une interruption juste le jour de Lag BaOmer. La notion de ce deuil va se percevoir surtout sur l'interdiction faire des mariages, célébrer des mariages, de se couper les cheveux, et de faire de la musique, grosso modo. Ce sont les grands points, même s'il y a beaucoup de détails sur la question. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Rav Moshe Feinstein nous dit que si un Ashkenaz, par exemple, se marie à la fin du mois de Nissan, période pour lui, le mariage est autorisé, puisque le deuil commence à partir du début du mois de Iyar. Mais pour un séfarade, le deuil a déjà commencé. Eh bien, comme pour le marié, eh bien, c'est une période où il peut se marier, donc c'est se fait dans le héter, dans l'autorisation, il peut inviter un séfarade qui pourra participer pleinement à la simra, même s'il y a la musique, même s'il y a la joie, aucun problème. D'un autre côté, un séfarade qui va se marier après le 34e jour du Homer, comme la tradition séfarade le veut, et qu'il veut inviter un Ashkenaz qui, pour lui, eh bien, cette période après l'Agba Homer est encore une période de deuil, dans la mesure où pour le marié, la période est en autorisation de mariage, eh bien, on se réfère au marié où c'est autorisé, donc la fête est valide, et s'il invite une personne ashkénaze dans cette période, il n'y a pas de problème, il pourra participer. C'est comme ça que tranche Rav Moshe Feinstein. Et à travers cette halakha, il y a quelque chose de remarquable. Il peut y avoir des traditions qui sont différentes, mais quand il va avoir une simcha, une joie, qui va être suivant une tradition, eh bien, la possibilité de participer à cette simcha pour une personne qui est de notre tradition va être possible et va exprimer cette ardoute, cette unité qui va exister dans le clan d'Israël, unité dont on a besoin en ce moment, unité dont on a besoin tout le temps, unité qui est un des messages fondamentaux pendant cette période où on est en deuil par rapport aux élèves de Rabbi Akiva qui ne se faisaient pas kavod l'un l'autre comme il fallait, et qui est en fait une notion fondamentale pour recevoir la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, il est marqué Vaïchan Sham Israël Negadahar, Israël campa là face à la montagne au singulier. Alors que les autres verbes sont marqués au pluriel, il y a au niveau du campement devant le mont Sinaï, le verbe est conjugué au singulier comme un seul homme, d'un seul cœur. C'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah. Excellente journée.
Excellente journée également à vous, mes vrais herbibes. On vous retrouve aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
6h41 et tout de suite c'est Micro-Sion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
Frères ennemis sur et en dehors du terrain, les oppositions des deux clubs de football d'Hapoël Tel Aviv et de Betar Yerushalayim doivent aussi leur antagonisme à cause de leurs origines. L'Hapoël Tel Aviv est un club de football qui a été créé en 1919 et basé, comme son nom l'indique, dans la ville de Tel Aviv. Fondé à l'origine par des membres de l'Ahistadrout, le syndicat des travailleurs israéliens, il fut fusionné avec le club Allenby, fondé lui en 1919. Le nom Hapoël signifie « l'ouvrier » en hébreu et évoque bien entendu son ancrage à gauche dans l'échiquier politique. Le Betar Yerushalayim fut lui fondé en 1936 sous le nom de Menorah. Basé principalement à l'origine sur des jeunes dont l'esprit était l'idéologie du Betar, animé par les idées de Vladimir Jabotinsky, des idées d'une droite nationaliste. Les deux clubs ont un palmarès bien garni et leur affrontement, toujours attendu, se fait aussi bien dans les tribunes que sur le gazon. Le football en Israël est à l'image de sa société, diverse et sous tension, tant les identifications sociales, religieuses et politiques de chaque club sont fortes.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël, vous est offerte par l'Organisation Sioniste Mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
La Tour Eiffel est toujours là. Bonjour la Tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'Opéra.
La Tour Eiffel, Miss Tinguette ce matin sur Radio J. Et oui, bon anniversaire à la Tour Eiffel. Effectivement, en fait, ce 15 mai, l'inauguration de la Tour Eiffel, puisque c'était le 15 mai 1889 que, pour la première fois, on a découvert cette fameuse tour lors de la 10e exposition universelle organisée à Paris, fin 19e. C'est pour cette occasion, hein, spécialement, que la Tour Eiffel avait été construite, étendue sur 95 hectares. L'exposition occupe alors le Champ de Mars, la colline du Trocadéro et les quais jusqu'à l'esplanade des Invalides. Et la Tour Eiffel est au centre de tous les regards. L'exposition universelle de Paris, il faut le dire, hein, à l'époque recevait des millions de visiteurs. Parmi eux, 1 953 000 viennent découvrir la Tour Eiffel, soit près de 12 000 personnes par jour et c'est un succès immédiat de Gustave Eiffel donc, qui a construit cette fameuse tour. Dès la première semaine, ce sont près de 30 000 visiteurs qui escaladent le monument par l'escalier puisqu'il faut savoir que les ascenseurs n'étaient pas encore en service. Donc ils escaladent la tour jusqu'au deuxième étage et la tour Eiffel est à cette époque la tour la plus haute du monde. Les gens de tous les pays se rendent au cœur de la capitale française pour admirer ce chef-d'œuvre architectural. Le public se presse pour découvrir non seulement les vertiges de l'ascension, mais surtout une vue sur Paris inédite, puisqu'on ne connaissait pas encore la vue d'avion. Alors, il y a de nombreux restaurants, quatre restaurants, et puis peut-être que vous l'ignoriez, mais à l'époque, il y avait le Figaro, le journal Le Figaro, qui était installé dans la Tour Eiffel, effectivement, qui avait installé une imprimerie et qui fabriquait sur place tous les jours une édition spécial. Vous avez déjà été à la Tour Eiffel, Eva, vous l'avez déjà montée ?
Oui, je l'ai déjà montée. Comme tout le monde, quand on était petit, on est tous montés à la Tour Eiffel.
Mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas visité, la Tour Eiffel. Ouais. Vous l'avez visité, la Tour Eiffel, vous, Roman ?
Alors, comme beaucoup de Parisiens, étonnamment, non.
Ah, mais c'est incroyable, mais il faut le faire.
Alors, j'aimerais bien le faire. Après, ma mère me dit qu'on y était, qu'on est très 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 jeune.
Oui.
Mais je n'ai vraiment aucun souvenir, quoi.
Eh bien, écoutez, on ira tous ensemble à Radio J visiter la Tour Eiffel.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
6h45 minutes, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité en Israël, le 122e jour de guerre contre le Hamas et la mort d'un soldat annoncé ce matin, le sergent Ira Yair Gispan, qui est mort hier au combat dans le sud de la bande de Gaza et toujours sur le front sud. 14 soldats de Tzal ont été blessés hier, dont 4 grièvement dans des combats avec le Hamas. Par ailleurs, dans un raid aérien dans la région de Nousserat, c'est un centre de commandement du Hamas qui a été frappé. Il se trouvait dans une école de l'UNRWA. Selon Tzal, il y a des otages dans la région de Rafah. C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari lors de sa visite aux troupes en opération à l'est de Rafah. Selon le contre-amiral, et ces derniers jours, les opérations à Rafah, Jabalia et Zetoun ont permis d'éliminer plus de 100 terroristes. L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Et en France, le mur des justes du mémorial de la Shoah, vandalisé à Paris, des mains rouges y ont été taguées. Une plainte a été déposée.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 7h15. 7h, le journal d'Israël.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Vous nous rejoignez sur Radio J comme tous les matins et vous le savez, un des premiers rendez-vous de cette matinale, c'est Mila, le mot du jour. Et nous sommes toujours avec notre hébraïsant préféré, Eli Cohen est avec nous. Bonjour Eli.
Shalom. Shalom lekulam, shalom lamaazinim, boker tov.
Alors ce matin, vous allez nous parler d'un mot hébraïque très connu, d'ailleurs le plus connu du dictionnaire français, c'est le mot Alléluia.
En effet, ce mot très connu, notamment grâce à d'innombrables chansons à succès, signifie louer, Z, Dieu. En fait, ce sont deux mots collés, Hallelu, Ya. Ouais. Et il est répété plusieurs fois dans les psaumes, en hébreu, Tehilim. Ce mot, Tehilim, provient aussi de la racine Hallel.
Alors, Hallel vient de Alléluia.
Absolument, absolument. Cette racine donne le verbe Lehallel, qui veut dire louer, pas louer une voiture, louer dans le sens de psalmodier, célébrer.
Mais alors, Eli, y a-t-il un rapport avec le mot Hiloula ?
Tout à fait. La Hiloula est un événement de célébration et de louange autour d'un rabbin défunt. Par ailleurs, Tehilim, au singulier, donne le mot Tehila, qui signifie la célébrité. Vous entendez le mot célébrer dedans.
Ouais.
Par exemple, ce chanteur a eu beaucoup de succès. Hazama, ze, zachal, et Tehila, rabba, les Hallel, c'est le mot, donc c'est le verbe louer, faire des louanges. D'où vient le mot Hallel, le recueil de psaumes connu notamment dans la Haggadah de Pessah.
Et c'est aussi un joli prénom.
C'est un très beau prénom féminin. Et là, je m'adresse à tous les parents qui passent le fameux calvaire en ce moment de rechercher peut-être un nom pour leur nouveau-né.
Alors, de la psalmodie au blasphème, il n'y a qu'un pas.
En effet, il ne faut pas confondre les Hallel profané qui vient de Hallel.
C'est vraiment très proche, les deux termes.
Vous remplacez le « he » par le « het » et c'est le drame. Attention à votre prononciation, c'est très important. « Alléluia » est utilisé souvent pour « enfin » en français. Vous voyez, genre « Ah, Alléluia, il est arrivé !» Alors non, en hébreu, « Alléluia » n'a pas du tout ce sens-là. En hébreu, ce n'est pas une expression qui s'utilise trop en langage parlé. C'est vraiment réservé à la prière. C'est vraiment un mot de prière.
Ou à la chanson.
Ou aux chansons, évidemment. On peut dire que c'est vraiment un mot hébraïque légué à la chrétienté. Allez, cette chronique est terminée. Alléluia.
Merci beaucoup, Eli Cohen. Et pour une formation plus complète, rendez-vous sur votre site à cours-d'hébreu.com.
Je vous attends.
Le 6-9. Radio J.
Radio J.
49 minutes, on se réveille ensemble comme tous les matins et tout de suite Rémi Sennebaum pour un jour une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui, si vous le voulez bien, d'un commandement fondamental et qui pourtant présente un caractère humain. La mitzvah d'Achnasat Orchim, recevoir des invités. Nous la voyons pratiquée dans le texte de la Torah par Avraham, notre ancêtre. Et en effet, Avraham semble lui accorder une importance toute spéciale. Voyant venir trois hommes qui sont en fait trois anges, mais Avraham ne le sait pas, vers sa demeure, il court à leur rencontre pour les inviter à manger. Cependant, à ce moment-là, Dieu lui parlait, se révélant à lui. Qu'à cela ne tienne, nous disent nos sages, recevoir des invités, c'est encore plus important que d'avoir, si l'on peut dire, la visite de Dieu. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on ne dit pas, quand on respecte ce commandement, la petite phrase qui, dans de nombreuses communautés, précède la pratique de chaque mitzvah, l'Echem Yichud, c'est pour unir Dieu et sa Shrina au nom de tout Israël. Parce que précisément, recevoir des invités dépasse encore le niveau spirituel désigné par le mot Shrina, la présence divine. Cette mitzvah est d'application très large, ainsi ne pensons pas qu'il s'agirait de recevoir des pauvres. Bien au contraire, cela s'apparenterait plutôt à l'idée de charité qu'à l'idée de recevoir des invités. Non. Recevoir des invités, c'est recevoir quiconque veut bien venir nous visiter et le recevoir de la meilleure façon qui soit. Ne voit-on pas dans l'histoire d'Abraham, cité plus haut, que celui-ci n'hésite pas à abattre pour réjouir ses invités trois agneaux pour prélever leur langue qu'il cuisine. Dans ce commandement, comme dans tous les autres, pour bien l'accomplir, il n'y a pas de demi-mesure. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaim Nissenbaum, qu'on retrouve évidemment au quotidien sur Radio J. Merci d'être avec nous. La nuit des musées est de retour. Et oui, ce week-end, comme chaque année, le temps d'une soirée, de nombreux musées vont ouvrir leurs portes, la plupart du temps gratuitement, partout en France. Ce samedi 18 mai, des centaines d'événements vous attendent. Alors, on va pas pouvoir, évidemment, tout vous dire, mais quelques musées quand même à faire, notamment hommage au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme de Paris. Et justement, pour cette nouvelle édition de la Nuit au Musée, eh bien, le MAJ a choisi de mettre l'accent sur des ateliers, des spectacles ce samedi soir pour accompagner votre promenade nocturne, l'occasion de se laisser surprendre notamment par la performance de l'artiste Adriana Wallis. 11 petites soucoupes sur la spoliation des objets du quotidien des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez vous rendre hommage, vous pourrez déambuler également au Musée des Arts et Métiers Paris Centre. Une programmation pour jeunes publics a été pensée, notamment si vous avez des enfants. Il y a également la Cinémathèque française dans le 12e arrondissement, là pour plonger dans l'univers de James Cameron. La Bourse de commerce Pinault Collection Paris Centre. Et oui, si on prenait le temps d'admirer l'architecture de la Bourse de commerce à la nuit tombée pour aider les enfants et leurs parents à y voir plus clair, des médiateurs conférenciers seront là justement pour répondre à toutes vos questions. Il y a également le musée des plans-reliefs dans le 7e arrondissement qui va se transformer en théâtre samedi soir avec des visites jouées, comme si on était finalement un petit peu dans le Paris de Louis XIV. Et puis la grande galerie de l'évolution dans le 5e, de la faune aquatique à la grande caravane. Ça se passe donc ce samedi 18 mai partout en France, la nuit des musées.
Radio J.
14h-15h. Le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Et vous nous rejoignez pour l'infotrafic en région parisienne et ça se passe en ce moment même sur l'autoroute A13. Circulation difficile entre Rocancourt et Porte d'Auteuil. Également une rénovation de la chaussée à prendre en compte sur l'autoroute A4 entre Noisy-le-Grand et Nogent-sur-Marne, ce qui peut ralentir la circulation, donc adapter bien sûr votre vitesse. Dans les transports en commun ce matin, quelques éléments sur les lignes de RER, sur la ligne C. Le trafic est ralenti sur l'ensemble de la ligne. Renseignez-vous avant de vous rendre en gare en raison d'une panne, hein, notamment c'est ralenti. Et puis sur la ligne E, les correspondances avec le RERC justement ou le métro 1 se font toujours par l'extérieur de la gare en passant par la place de la Porte Maillot.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, nous sommes en direct. Près d'un millier de personnes attendues au rassemblement des générations de la Shoah, au mémorial de la Shoah, du 17 au 20 mai prochain. On va en parler ce matin et on en parle en direct avec Lior Lalieu, coordinatrice du colloque pour le mémorial de la Shoah et par ailleurs responsable de la photothèque de l'institution. Bonjour Lior.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. On va évidemment parler de ce forum Génération de la Shoah, mais d'abord on voulait avoir votre sentiment, ce que vous avez ressenti en tout cas hier en apprenant cette dégradation, cette profanation du mur des Justes. On sait que des mains rouges ont été taguées notamment sur ce fameux mur des Justes. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images?
Alors, je les ai vus en vrai, puisque nous, on est arrivés, enfin, tous les employés du mémorial sont arrivés à 9h hier, et on a vu, déjà, c'était dans le quartier, donc quand on est arrivé, chacun a vu dans les différentes rues, et ensuite, on est fait arriver devant le mur des Justes, ses mains, écoutez, c'est ignoble, je pense que c'est le sentiment général, on est révolté. C'était très catastrophique de voir ça, de voir ces mains rouges parfaitement dessinées, en plus bizarrement sous les noms, enfin heureusement d'ailleurs, les noms n'ont pas été dégradés du tout. Et très vite, ça a été enlevé par la mairie de Paris. Mais c'est totalement ignoble.
Et une plainte a été déposée. Alors, on revient sur ce forum que vous allez organiser, Génération de la Shoah, troisième édition. C'est un concept à la base qui vient des États-Unis, hein, je crois, Lior.
Oui, exactement. Ça existe aux États-Unis. C'est un grand rassemblement. C'est un événement chaque année des Américains, mais c'est un événement international aux États-Unis auquel nous, on participe depuis une dizaine d'années. Et ça a eu lieu une seule fois en France, en 1994 exactement. Et on demandait à ce que les Américains viennent à Paris, ce qu'ils ne faisaient jamais. Donc on s'est dit, eh bien, on va le faire, nous, à Paris, en France, sous le modèle français. Donc c'est en effet un rassemblement des survivants de la Shoah, première génération. Au départ, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est le rassemblement de toutes les générations de la Shoah.
Effectivement, et l'objectif, c'est donc de favoriser les transmissions de la mémoire de la Shoah, de dialoguer, évidemment, entre générations, Lior.
Exactement. Et puis, le mot d'ordre, c'est vraiment pour une mémoire vivante. Voilà, vous savez, il y a plusieurs événements mémoriaux. Il y a Yom HaShoah, il y a l'Askara. Et le forum Génération de la Shoah, c'est vraiment une autre parenthèse qu'on essaye drôle par moments et d'autres moments beaucoup plus tristes, puisqu'il y a des ateliers où chacun va pouvoir se raconter selon des thématiques et avec aussi des personnalités qui vont venir, mais pas uniquement. C'est un rassemblement de, alors plutôt 500 personnes que 1000.
Oui.
Le premier rassemblement, et ça nous a beaucoup étonné, il y a eu 600 personnes, c'était en 2019, on ne s'attendait pas du tout à ce succès. Les gens en sont ressortis vraiment bien apaisés. C'est une parenthèse et ça concerne en effet les personnes qui sont donc concernées dans leur famille par la Shoah. Donc c'est un entre-soi, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des accompagnants, les appels les accompagnants, les épouses, les épouses, mais aussi des assistantes sociales. Par exemple, cette année, il va y avoir aussi des personnes qui ont voulu se joindre à nous et que nous avons accepté pour la première fois. Mais c'est vraiment un entre-soi, c'est une parenthèse sur deux jours.
Et c'est important aussi, puisque vous parliez de thématiques, et cette année, justement, une thématique a été choisie après le 7 octobre, une thématique qui s'appelle « Rire dans les larmes », justement. C'est important aussi, de garder...
Malheureusement, ça nous a été inspiré, en effet, à partir du 7 octobre. C'était pas du tout notre programmation de départ. puisque ça fait un an qu'on prépare ce forum avec un comité, et ça je dois quand même le dire, c'est un collectif d'associations au départ, et le mémorial en fait abrite le forum Génération de la Shoah, mais le comité d'organisation est fait par 67 associations militantes de la mémoire, mémoire de la Shoah, mémoire combattante, et beaucoup de bénévoles. Et donc le 7 octobre, quand cette catastrophe est arrivée, nous avons complètement changé notre programmation et le titre même. C'était impossible de faire ce forum sans parler de ce qui s'est passé, de ce qui nous arrive encore aujourd'hui tous les jours. Et donc on a intitulé « Rire dans les larmes ».
Et donc un colloque qui débutera ce vendredi 17 mai à 19h30. On peut encore s'inscrire, j'imagine, les inscriptions sont obligatoires ?
Alors oui, bien sûr, les inscriptions sont obligatoires, déjà parce que vous devez choisir ce que vous voulez faire, il y a plusieurs activités. Et le forum, alors le vendredi soir, c'est un Shabbat laïque et qui concerne plutôt les gens qui viennent de province et de l'étranger, on en attend quand même pas mal. Mais le forum commence vraiment à 16h samedi, en effet, et vous pouvez encore vous inscrire.
Eh bien, merci beaucoup. Inscription obligatoire, je vais donner le numéro 01 42 77 44 72, 01 42 77 44 72. Merci beaucoup, Lior Lalieu, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Restez avec nous, les amis, dans quelques instants, le journal d'Israël avec les studios Qualita, et puis à suivre, mercredi, cinéma, toutes les sorties.